Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parizeau, Christelle Rebière.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Bienvenue, c'est donc parti, RTL midi, 1h30 d'infos. Grâce à vous, hein, avec vous, avec vos commentaires, avec vos témoignages, au 32-10, dès maintenant, le standard est ouvert, on vous attend. Plus que jamais, les électeurs ont la parole aujourd'hui, électeurs de droite ou du centre, après l'élection très nette de François Fillon à la primaire. Doit-il rester sur sa ligne ou arrondir les angles pour 2017? Doit-il s'ouvrir aux sarkozistes, aux juppéistes? Et puis l'électorat de Marine Le Pen, comment voit-il la candidature Fillon? Eh bien, dans 20 minutes, nous recevrons le filloniste Bernard Debré. Mais évidemment, on vous reçoit pendant 1h30, nous, au 32-10. Et puis, électeurs de gauche, vous êtes également attendus au 32-10 à l'heure de la grande explication Hollande-Valls, puisqu'il se voit maintenant, ou plutôt dans une demi-heure, autour d'un déjeuner qui s'annonce tendu. Qui doit être candidat? Dans quel cadre? Primaire ou pas? Le président et le Premier ministre peuvent-ils s'affronter? Pourquoi tous ces candidats à gauche? Macron brouille-t-il le jeu? La gauche est-elle au bord du suicide collectif? On en parle avec vous au 32-10 et tout à l'heure avec le politologue Pascal Perrineau.
Il y aura un deuxième procès Fiona. Le parquet général de Rion fait appel du verdict de vendredi. 5 ans de prison pour la mère de l'enfant, 20 ans pour le beau-père. Ils avaient semé l'effroi et la mort dans une discothèque de Lille en 2012. Deux hommes comparaissent devant les assises du Nord aujourd'hui. Dans RTL Midi, vous entendrez le témoignage du père de l'une des victimes, effondré mais combatif. Des centaines de milliers de Cubains attendus place de la Révolution à La Havane pour un hommage à Fidel Castro. En Floride, les réfugiés, eux, revivent le cauchemar de l'exil. La météo. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
On peut dire que le frigo est grand ouvert.
Oui, grand ouvert et encore le congélo est fermé pour l'instant. C'est dire si ça ne va pas être terrible dans les prochains jours. À côté de ça, on a beaucoup de soleil sur la moitié nord du pays. C'est un peu plus nuageux dans le sud, notamment en Auvergne, en région lyonnaise ou encore en Midi-Toulousain. Mais il n'y aura pas de dégradation aujourd'hui. À peine quelques gouttes, vraiment très localisées. Quant aux températures, pas plus de 4 degrés à Verdun cet après-midi, 6 à Dunkerque et Beauvais, 7 degrés à Paris et Angers, 9 à Lyon, 13 degrés à Carcassonne, maximum 17 à Ajaccio.
Et la question du jour sur RTL.fr. On vous demande ce matin si Manuel Valls doit se présenter à l'élection présidentielle. Et vous êtes partagé, presque à égalité. On a 43% de oui, 41% de non. Alors évidemment, vous continuez à voter sur RTL.fr. Mais surtout, et c'est le plus important, on attend vos arguments. Les électeurs ont la parole. 32-10.
RTL midi.
François Fillon représentera donc la droite à l'élection présidentielle. Il a quasiment humilié Alain Juppé avec ses 66,5% des voix au second tour de la primaire contre 33,5%. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions, a-t-il dit. Reste à transformer l'essai. Il lui faut rassembler et réorganiser le parti. Dominique Tenza, les consultations et autres tractations ont déjà commencé.
Ah ça, on peut dire qu'il n'aura pas perdu de temps, François Fillon. Depuis ce matin, c'est un vrai défilé dans son bureau de l'Assemblée nationale, consultation, entretien d'embauche. Pas le temps de savourer son triomphe, car si la victoire est nette, le plus dur commence. En réalité, rassembler les Français sur son projet conservateur, repartir en campagne avec une équipe solide, fidèle, sur laquelle il peut s'appuyer, d'où l'importance, dans l'immédiat, vous le disiez, de réorganiser le parti, les Républicains. Quel avenir, du coup, pour le président actuel, Laurent Wauquiez, soutien sans faille de Nicolas Sarkozy? La question lui a été posée ce matin par Elisabeth Martichoux.
J'aime ce que je fais. Je vous le dis très simplement, j'aime ce que je fais. Après, c'est pas moi qui décide.
Voilà, un candidat qui rêve en tout cas de voir son CDD prolongé, mais il le sait, son sort est désormais entre les mains de François Fillon. Le nouveau patron, c'est lui, et il peut disposer du parti comme il l'entend. C'est ce que prévoient les statuts, et donc forcément y installer ses hommes. Et c'est là un vrai dilemme. Faut-il garder Wauquiez, quelques sarkozistes, rajouter deux ou trois juppéistes pour donner l'image du rassemblement indispensable, ou bien faire table rase, cadenasser le parti, au risque de passer pour le coupeur de tête? Un signal compliqué à envoyer au lendemain de son élection.
Eh bien, c'est l'une des questions. Merci Dominique Tenza.
Ce qui est certain, c'est que la France de droite a voté sans ambiguïté pour François Fillon hier sur des idées libérales en économie, conservatrices sur les questions de société. Les électeurs, a dit le vainqueur, ont trouvé en moi les valeurs françaises. C'est évidemment aussi une façon de contrer le Front National. Cela dit, dans certains quartiers populaires, là où le Front National fait des scores, eh bien, on ne sait pas déplacé hier pour aller voter. C'est le cas du quartier de Lille-Fille. Vous, vous êtes Franck Hanson.
Oui, des rues ouvrières, souvent défavorisées, traditionnellement acquises à la gauche et où l'extrême droite grignote des voix. 165 votants seulement hier au bureau de vote du quartier contre 6 à 700 au centre ou dans le vieux Lille, plus bourgeois. Des habitants qui se sont oubliés.
C'est des beaux parleurs. J'ai plus confiance à la politique. Pour quelle raison d'aller voter ?
Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait la loi. Pas Fillon, hein. Il faudrait un beau revirement, Marine Le Pen.
Il y a des sujets qui n'ont pas été abordés du tout. Quoi. Pas d'écologie, pas des quartiers, ils n'ont pas parlé d'Europe. Les quartiers, ils n'en parlent pas. Ils disent qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans les quartiers. On est toujours au même point.
Et il faut donc se réveiller maintenant pour séduire cet électorat, reconnaît Antoine Silani, il est responsable des jeunes républicains dans le Nord.
Il faut avouer que la droite a un très gros travail à faire pour renouer avec les quartiers populaires, avec l'électorat ouvrier. On va pas assez voir les gens. Il est important qu'on y aille avant les élections présidentielles pour travailler avec eux sur un projet, pour les écouter et pour éviter qu'ils se retournent vers les extrêmes. On entend parler de Marine Le Pen, c'est une évidence. Il y a aussi certaines personnes qui n'en veulent pas.
À Lille-Fives, comme dans les cités de Roubaix-Tourcoing, c'est une autre campagne qui démarre maintenant.
Et à l'inverse, cette victoire de François Fillon a été saluée à l'étranger jusqu'à Moscou, en bonne place dans les JT.
François Fillon a remporté la primaire du Parti républicain pour les présidentielles. En France, organisée l'an prochain, l'ancien Premier ministre a battu son rival Alain Juppé.
Voilà, et le présentateur vedette de la chaîne publique Vesti, quasi porte-parole du Kremlin, a même interrompu son journal pour annoncer la victoire de François Fillon. Sachez qu'en France, ce n'est pas la soirée électorale qui a fait le plus gros score à la télé, mais bien le film de Philippe de Chauvron, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» 10,5 millions de téléspectateurs sur TF1, un gros carton. Que pensez-vous de l'élection de François Fillon pour représenter la droite ? Sera-t-il rassemblé ? Peut-il vraiment siphonner une partie des voix du Front National ? On en parle au 32-10. Sachez qu'il sera ce soir l'invité du journal de France 2.
Et puis n'oublions pas le vaincu, Alain Juppé, qui aura donc perdu sa dernière grande bataille politique. Depuis 2 ans, il faut le dire, il était donné, quasiment assuré d'entrer à l'Élysée. Voilà maintenant qu'il doit retourner à Bordeaux. Ses larmes d'ailleurs étaient à peine contenues hier soir lorsqu'il a reconnu sa défaite. Et pour ses proches, y compris les ralliés de la dernière heure, Julien Fautra, eh bien on peut dire que l'avenir s'écrit en pointillé.
Oui, les proches d'Alain Juppé se classent en plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui ont tout abandonné, tout sacrifié pour le maire de Bordeaux. Ceux-là vont alors se chercher du travail ou partir en vacances. Un très proche qui fait la campagne depuis 2 ans part loin, très loin, dès demain, sur une île à l'autre bout du monde, en Thaïlande, pour être certain de couper complètement avec la politique. Charles Hufnagel, qui s'occupait de la communication d'Alain Juppé, était ce matin à 8h30 dans son bureau chez Saint-Gobain. Pas de répit. Mais forcément, un petit peu d'amertume. Autre catégorie, les élus, proches ou ralliés, qui vont se replier sur leur mandat. Édouard Philippe au Havre, la ville dont il est maire. Jean-Pierre Raffarin au Sénat, il s'était engagé très tôt pour Alain Juppé. Mauvaise pioche aussi pour Valérie Pécresse, qui s'était engagée pour celui qui était encore le grand favori il y a quelques semaines. Elle reste présidente de la région Île-de-France, mais ses ambitions nationales, elle, l'ancienne filloniste, ont du plomb dans l'aile. Et puis enfin, il y a ceux qui n'ont pas enterré tout espoir et toute ambition. Des juppéistes, et pas des moindres, ont fait des propositions de service à l'équipe de François Fillon en toute discrétion.
Merci Julien Fautra. En tout cas, on voit bien que le paysage politique est en train de bouger et peut-être de se stabiliser à droite, pas à gauche, évidemment. Un sondage interactif diffusé dans la foulée de l'élection hier soir donnait François Fillon devant Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. 26% pour François Fillon, 24% pour Marine Le Pen. Loin, très loin devant François Hollande ou Manuel Valls à 9%. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera après la pub.
RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau.
À peine le suspense vient-il de s'achever à droite qu'il nous rattrape par la gauche. Le couple exécutif est au bord de la rupture. Manuel Valls, dans le JDD hier, a expliqué qu'il se tenait prêt à être candidat, y compris contre François Hollande. Le président de la République lui fait toujours durer le suspense et n'a pas l'intention de se faire dicter son calendrier. Dans quelques minutes, les deux hommes déjeuneront ensemble à l'Élysée, comme tous les lundis. Mais leur repas, cette fois, pourrait bien leur rester sur l'estomac, Olivier Beaus.
Ah oui, car Manuel Valls l'a assuré à plusieurs de ses proches. En face à face, il va répéter au président tout ce qu'il leur a confié ces derniers jours. François, tu risques de perdre la présidentielle avec un score ridicule. Si tu n'es pas battu dès la primaire socialiste, tu vas tous nous entraîner dans ta chute. La gauche réformiste va disparaître. Avant d'arriver au dessert, Manuel Valls brandira aussi sa nouvelle menace. Je pourrais me présenter contre toi dans la primaire. Il va même poser un ultimatum pour faire monter encore la pression. Le Premier ministre décolle juste après le déjeuner pour une visite en Tunisie jusqu'à demain midi. À son retour, assure ses proches, il leur a pris sa décision. Alors s'agit-il d'un nouveau bluff ? François Hollande, qui joue comme personne de l'impatience de ses adversaires, voit le temps se contracter. Il lui reste dans la semaine deux possibilités, demain après-midi ou jeudi, s'il choisit d'accélérer. Jeudi, il aurait même le temps de faire un aller-retour en Corrèze pour annoncer sa candidature, détaille un proche. Mais pour l'instant, même sous la pression de Manuel Valls, comme à son habitude, François Hollande n'a dit à personne ce qu'il comptait faire.
Ambiance, effectivement, au sommet de l'exécutif. En tout cas, pour Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Ça ne peut pas s'imaginer, dit-il. C'est d'ailleurs un discours qu'on entend chez les proches de François Hollande depuis quelques jours. Ainsi, l'avocat Jean-Pierre Mignard, il suggère même à François Hollande de ne pas participer à la primaire, de se présenter hors primaire. Écoutez, il était sur RTL ce matin avec Elisabeth Martichoux.
Lui-même se trouve aujourd'hui dans la situation où il doit prendre une décision. Renonce-t-il ou se présente-t-il devant les Français ? C'est quand même bien le président de la République. Il a bien le droit de s'exprimer. Et s'il se présente-t-il directement ou passe-t-il devant une primaire ? Il ne peut pas revenir devant une primaire, ce qui n'est pas du tout méprisé.
Mais il ne peut pas échapper à la primaire, Jean-Pierre Mignard. Il ne peut pas échapper. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi ?
Il doit échapper à la primaire, car le président sortant n'a pas à se présenter devant un conseil de famille, mais devant le peuple tout entier. Ça, c'est la règle. Si ensuite François Hollande considère que les conditions ne sont pas réunies pour aller directement devant le pays, alors il n'y va pas, ou il y va, mais parce que c'est son électorat naturel, ce sont les 15 millions de Français qui l'ont élu.
Voilà, donc Jean-Pierre Mignard, très proche donc de François Hollande, invité ce matin d'Elisabeth Martichoux. Manuel Valls doit-il se présenter à l'élection présidentielle ? Vous êtes 43% à nous dire oui, 41% à nous dire non. En tout cas, on l'a compris, la droite est en ordre de marche, la gauche est dans un grand désordre. Manuel Valls peut-il se présenter contre François Hollande, 32-10.
Dans l'actualité, il y a aussi cet appel du parquet général de Rion. Il fait appel du verdict du procès de l'affaire Fiona. La mère de l'enfant avait été condamnée à 5 ans de prison vendredi, ce qui avait suscité un certain émoi. Son ex-compagnon a 20 ans. Il y aura donc un nouveau procès. Ils avaient été refoulés à l'entrée d'une boîte de nuit à Lille en juillet 2012. Ils étaient revenus 5 minutes après, armés de Kalachnikov, tuant 2 personnes en blessant 6 autres. 2 hommes sont jugés à partir de cet après-midi par la cour d'assises du Nord. Le père de Sabrina y a assistera. Sa fille de 25 ans, employée occasionnelle au vestiaire de la boîte de nuit, a été tuée cette nuit-là. Frank Hanson lui a demandé tout simplement comment il allait 4 ans après.
Toujours effondré, mais combatif. Combatif pour Sabrina. C'est une victime innocente, c'est un acte gratuit qui a été fait par des individus imbus de leur personne et très fiers. Il venait pour tuer, pas pour faire peur, pour se venger.
Parce qu'il avait été refoulé d'une boîte de nuit, quoi.
C'est ça, comme c'était une personne assez fière, il s'était fait devant des amis ou des copains, donc il voulait se venger. Mais il y a eu tout de même préméditation, puisqu'il y avait une arme dans sa voiture. Sabrina, elle est là, non pas pour s'amuser, mais elle travaillait. Elle n'avait pas de conflit avec ces gens-là. Elle est morte pour rien. C'est des gens qui devraient être punis à vie pour moi. Je veux effectivement les voir. Je me forme pour résister à toute colère. Quel que soit le verdict, on a perdu Sabrina à tout jamais. Il faut qu'ils se représentent la souffrance qu'on peut avoir. Nous, on l'aura toute notre vie, la souffrance.
Yves Vasseur, le père de Sabrina, au micro RTL de Frank Hanson. À l'étranger, après 4 ans de guerre, les rebelles perdent du terrain dans la partie est d'Alep. Bachar el-Assad a toujours considéré que la reconquête de cette ville porterait un coup décisif aux rebelles et lui permettrait de se remettre en selle sur la scène internationale. 3 jours de deuil en hommage à Fidel Castro. Non, c'est pas à Cuba, mais dans un pays frère, la Corée du Nord. À Cuba, c'est 9 jours.
C'est 9 jours, oui.
Le Vietnam aussi lui reste fidèle. Et ça contraste singulièrement avec les scènes de liesse qu'a connue la Floride, où vivent des milliers de réfugiés. Philippe Corbet a rencontré à Miami une famille d'exilés qui a fui sur un radeau il y a 15 ans.
Edilia et Osley montrent à leur fille de 11 ans une tenue de prisonnier comme celle qu'ils ont portée avant de fuir Cuba. C'était en 2001.
C'est difficile pour elle de comprendre pourquoi on a souffert pendant tant d'années.
Ce que vous ressentez, la peur, la paranoïa, en pensant que le voisin va vous dénoncer, enfin vous savez...
Vous faire perdre votre travail, vous envoyer en prison, tout peut arriver. On a été en prison 2 fois.
Mais ils s'aimaient, il leur a fallu 10 ans et 4 tentatives pour rejoindre enfin la Floride sur un radeau.
Ils nous lavaient le cerveau. Ce n'est pas ce que je voulais pour moi et mes enfants. Nous savions que nous risquions notre vie, mais ça m'importait peu. Si je mourais en mer, dévoré par les requins, je m'en moquais. Je voulais juste quitter Cuba. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans le communisme.
Et vendredi soir, leur fille a compris pourquoi ses parents ont éclaté de joie. Parce que Fidel Castro venait de mourir, l'assassin qui avait tué beaucoup de Cubains, mais échoué à étouffer les rêves de deux amoureux.
Reportage Philippe Corbet à Miami. Étrange coïncidence, les premiers vols commerciaux réguliers entre des aéroports américains et La Havane ont décollé ce matin. C'était prévu depuis plusieurs mois, bien avant la mort du commandanté. D'ici à la fin de l'année, 110 vols quotidiens directs relieront Cuba et les États-Unis. On a déjà changé d'époque.
Allez, une courte pause et dans un instant, on va demander à un filloniste pur sucre si Fillon va mettre de l'eau dans son vin. Bernard Debré, invité d'RTL Midi.
RTL Midi.